Les fidèles du mag de Tropic FM se souviendront peut-être de cette interview par téléphone fort agréable et instructive du lundi 10 novembre 2003 avec Alexis Djoskounian à l'occasion de son concert au Centre culturel de Bron le vendredi qui suivait. Alors si je vous dis « Ce que t'es belle », cela vous dira forcément quelque chose puisque cette chanson lui a permis à travers de grands médias de se faire remarquer du grand public du début du 21e siècle. 5 ans, 4 mois, un album studio et un live plus tard. Il était plus que temps de faire le point avec lui 2 semaines avant son 35e anniversaire, 4 jours avant la sortie officielle de son 4e album Les Affranchis et à 2 jours de sa venue à la tannerie de Bourg-en-Bresse. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir au téléphone l'auteur, compositeur, interprète Alexis Hachka. Alexis, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je le disais, notre première rencontre téléphonique date du 10 novembre 2003. Les 3 premières années qui suivirent furent très intenses. Hein, un album studio, L'Homme du Moment, un album en public, Ce que t'es belle en live, une tournée très éprouvante. Dans la discographie reçue, vous écriviez « Les temps qui suivirent furent sombres, fatigué que j'étais par 3 ans de tournée et 2 albums. Il y avait overdose artistique, bien évidemment ?»
Il y avait un peu overdose de route, un peu overdose artistique, fatigue physique aussi, et besoin effectivement de se reconstruire et de se replonger dans la création de nouvelles chansons. Donc, mais c'est souvent comme ça, la vie, on suit des routes et puis à un moment il faut s'arrêter un petit peu pour pouvoir en continuer, pour pouvoir la continuer ou en continuer une autre. Donc moi c'est vrai que c'était un moment où j'avais vraiment besoin de me poser un peu.
D'accord. Donc vous aviez besoin de vous retrouver? Aussi.
J'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de me reconstruire, et c'est vrai que bon, faire un album, les musiciens le savent très bien, ça se fait pas, il faut vraiment être conforme à ses envies, il faut vraiment en bon état aussi, en bonne santé. Bon, moi je suis en bonne santé, mais là j'étais quand même fatigué, donc j'ai décidé de prendre le temps de me reconstruire, et aussi de faire quelques projets parallèles, des ateliers de chansons, des créations de spectacles, que j'ai eu la chance de faire pendant ces années. Donc, j'ai pas seulement écrit des chansons, mais j'ai aussi travaillé avec d'autres personnes, avec des jeunes dans le cadre d'animation culturelle, et ça m'a fait énormément de bien. Donc, j'essaye aussi de diversifier un petit peu les branches de ce travail et de ne pas faire que chanteur, mais aussi d'avoir des activités un petit peu parallèles.
Vous auriez pu bifurquer vers d'autres arts ou carrément pour survivre, hein, vers une autre voie professionnelle, comme ça a été le cas au début?
Quand il faut survivre, hein. Si vraiment vous êtes à la rue, il faut travailler. Après, moi je sens bien que mon chemin est là-dedans depuis que j'ai commencé à faire ça. Et donc, s'il avait fallu retourner travailler au McDonald's, je l'aurais fait, mais ça n'aurait pas forcément été de gaieté de cœur. Je suis dans une logique où, quoi qu'il arrive, je ferai de la musique de toute façon.
Donc vous êtes également parti au Maroc en résidence avec votre ami Nicolas Jaillet qui vous suit depuis le début afin de monter un tour de chant en solo.
Tout à fait.
Hein, donc vous qui avez longtemps tourné à 5 sur scène, vous aviez également envie de vous retrouver seul sur scène sans cette notion de groupe avec ses avantages mais aussi ses inconvénients. Vous aviez besoin de liberté.
Oui, alors j'avais besoin de changement en fait. De changement et puis je voulais revenir un petit peu aux sources, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à écrire des chansons avec une guitare, donc tout seul avec une guitare, donc je voulais revenir à ça en attendant de repartir en groupe. Oui.
Donc vous avez également donc écrit de nouvelles chansons que vous avez enregistrées l'année dernière.
Tout à fait.
Ouais, donc écrites souvent seul, mais parfois par d'autres, comme Nicolas Jaillet, Erwan de Java, ou avec d'autres, hein, comme Lise Chéral, Nicolas Jaillet encore, à nouveau, ou votre Norvégienne Slige Grepp.
Ouais, c'est vieux, oui. Bah, tout à fait.
Donc vous vous êtes, je cite, offert le luxe de ne pas avoir tout écrit. La facture était salée?
Non, la facture n'était pas salée, au contraire, c'était... Je trouve ça très agréable de partager sur un album qui est un espace de création, d'autres écritures, d'autres propos, d'autres pensées. Donc c'était vraiment très agréable. Je pense que pour la suite, je continuerai à travailler comme ça en concomitance avec des gens que j'aime. Ouais.
Alors pour enregistrer ce futur nouvel album, parce qu'il n'est pas encore sorti officiellement, vous avez forcément dû sortir de votre phase solo et retrouver en studio des musiciens et des nouveaux musiciens. Vous ne seriez jamais reparti avec vos anciens compagnons de route et de studio?
Oh, j'adore mes anciens compagnons de route, mais ils sont partis eux aussi sur d'autres chemins, parce que c'est bien quand on est musicien de pas suivre toujours le même chanteur. Et puis on se quitte jamais définitivement, c'est-à-dire on prend le temps d'aller ailleurs, mais enfin voilà, moi j'aimerais beaucoup retravailler avec les frères Ryu, qui sont des musiciens exceptionnels. Enfin, j'ai beaucoup d'excellents souvenirs, mais comme j'avais aussi envie d'un changement de couleur musicale, je voulais des sons un petit peu plus modernes pour ce disque-là. Ben, je me suis offert le plaisir, effectivement, de travailler sous de nouvelles influences. Et voilà, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien.
Ouais. Alors, le titre de votre quatrième album à paraître le lundi 23 mars s'appelle Les Affranchis, hein, le titre de la première chanson en référence au film de Martin Scorsese. Alors, comme Henry Hill, vous avez toujours rêvé d'être un gangster?
Non, alors lui, il en a rêvé, mais il l'a fait. Mais moi, c'est plus en fait une espèce de fantasme un peu mythomane. Et surtout, je suis un fanatique du film Les Affranchis. Donc, je voulais faire une petite comparaison entre le monde des chanteurs et celui des gangsters. Je pense que les chanteurs, ils réussissent à avoir une vie d'affranchis avec leurs chansons. Au lieu d'avoir des fusils, ils ont des guitares. Et ils réussissent à s'affranchir comme ça des contraintes de la vie du commun. Ils vivent leurs rêves un petit peu. Donc, c'était ce parallèle-là, mais moi j'ai aucune envie de devenir un vrai gangster violent qui fait du mal à des gens. C'est pas du tout ma marque de fabrique.
Alors, dans cette chanson justement, les Affranchis, vous comparez, je cite, le monde de la musique à celui des gangsters, avec ses familles, ses rites, ses fausses amitiés. Moi, je rajouterais son hypocrisie. Les autres mondes ne sont pas mieux. Vous auriez pu citer la politique, l'armée ou même le sport et le football en particulier.
Oui, tous les milieux en fait fantasment un peu sur celui des gangsters et les films de gangsters, c'est une caricature un petit peu de comment ça peut se passer dans un milieu avec ses chefs, avec ses pompes et puis avec ses petites frappes. Donc, effectivement, on peut faire des parallèles très très larges avec ça. Oui.
Votre expérience avec un gros label Virgin en l'occurrence vous a marqué. Vous aussi, ils vous ont mis dehors parce que vous n'aviez pas assez vendu?
Ils m'ont mis dehors, oui, gentiment, hein. Mais bon, je pense qu'il y avait la question des ventes d'albums, puisque c'est vrai que bah, c'est des grosses maisons, il faut vendre beaucoup, beaucoup de disques pour justifier de sa présence. Moi, j'ai vendu à peu près 30 000 albums de chaque, ce qui est pas un petit score en soi, mais qui pour une maison de disques est un peu faible. Et puis, bon, je pense qu'en interne, ils ont aussi eu de grosses restructurations, enfin des choses qui me dépassent totalement. Qui font que les personnes qui m'avaient signé au départ n'étaient plus là. Donc, c'est sûr que les personnes qui arrivent après ont envie de nouveaux projets et ne gardent pas forcément les artistes qui ont été signés par d'autres. Donc, il y a beaucoup de raisons à ça.
Ouais. Alors, côté musique, vous avez tenu à apporter plein de petits instruments, petits n'étant pas péjoratifs, bien évidemment. L'accordéon est peu présent et les guitares se font plus folk qu'électriques. Vous aviez besoin d'un petit rafraîchissement, puis de sortir de cet univers chanson, je dirais, plus traditionnel que vous aviez au début?
Oui, j'avais envie d'aérer un petit peu, d'aérer un petit peu les chansons. J'avais envie de leur donner une autre couleur. Bon, j'adore l'accordéon, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Ça donne tout de suite une couleur assez spécifique à une chanson. Et donc là, plutôt que d'en mettre un peu sur toutes les chansons, j'en ai quasiment pas mis, sauf sur une où il n'y a qu'une seule chanson, mais où il n'y a que de l'accordéon dedans. Donc, voilà, c'est un parti pris d'inversion. Avant, il y en avait un peu partout, et maintenant, il y en a que sur une chanson, mais par contre, voilà, il n'y a que lui.
Ouais. Et le reste, c'est autre chose. Hein, le reste,
Le reste sonne un petit peu plus folk, un peu hip-hop. Il y a quelques morceaux un peu rappés. Enfin voilà, il y a des petits amusements.
Ouais, ouais. C'est le côté Olaf qui ressurgit, Ray.
Peut-être, parce que je pense qu'on est marqué, on est vraiment marqué par toutes les influences, et Olaf fait partie des premières personnes que j'ai rencontrées en musique, et c'est un créateur d'avant-garde qui a fait de l'électro depuis très très longtemps, bien avant que ça devienne à la mode, et c'est sûr qu'il a dû m'influencer d'une certaine façon, oui, ouais. Sans aucun doute.
Vous vous côtoyez toujours?
Là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais ouais, on se contacte toujours, bien sûr.
D'accord. Alors, côté concert, on vous retrouve donc le samedi 21 mars à la tannerie de Bourg-en-Bresse. Oui, les kilomètres de France profonde vous ont marqué, c'est encore le cas aujourd'hui.
Ah oui, ça me, enfin moi, faire de la route, de toute façon, ça me marque. Et Et je, tout ce que je rencontre dans la vie, que ce soit des routes, des gens ou des musiques, me marque et m'inspire. Donc c'est sûr qu'avoir l'occasion de voyager dans son propre pays par le biais de la musique, c'est une chance extraordinaire. Et ça m'a beaucoup marqué, ouais. Ouais. C'est sûr.
Bien.
Et j'ai hâte de repartir.
Ah, ben ça me fait plaisir.
Moi aussi.
Eh ben merci Alexis Alchko d'avoir accepté l'invitation de Tropic FM et puis nous avoir donné un peu de vos nouvelles.
Ben merci infiniment, merci à vous de, après 5 ans et demi, d'être encore là et de vous intéresser à ce qui sort de nouveau.
Ben oui.
C'est très, très aimable à vous et ça me réchauffe le cœur.
Bien, eh ben nous aussi. En attendant donc la sortie de votre 4e album studio Les Affranchis, hein, qui sort le lundi 23 mars, eh ben on vous retrouve donc, je le disais, en concert à la Tanner Bourg-en-Bresse, avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Bertrand Hay.
Tout à fait, je le connais très bien. J'ai fait un titre avec lui sur, sur son album précédent. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'aimerais bien qu'on joue ce titre d'ailleurs sur scène ensemble. On va essayer de mettre ça en place.
D'accord. Vous serez seul sur scène? Non.
Ah non, je ne serai pas seul sur scène.
D'accord.
Non, je serai accompagné par 3 musiciens avec qui je répète d'ailleurs aujourd'hui.
D'accord. Eh ben, nous, on va se quitter en chanson avec un extrait de votre nouvel album Les Affranchis. Le morceau s'intitule Chicken Manager.
D'accord, très bien.
Voilà, et puis donc Alexis, bonne chance pour la suite de vos aventures.
Et au plaisir de se revoir très vite. Bah
oui.
Merci beaucoup.
Bah, bon concert dans l'un quand même.
Oui, merci bien.
Et puis à très bientôt sur Tropic FM.
Au revoir, au plaisir, merci.
Au revoir.